Paolo, c'est mon petit-fils. Il aura 8 ans dans quelques jours. Il demande à sa mère, la crise, comment ça s'attrape la crise? Est-ce que tout le monde l'attrape la crise? C'est tellement beau que j'avais envie de le laisser sur le répondeur. À bientôt.
Qu'est-ce que j'apprends en écoutant France Inter que la grande messe de Davos, où il y avait 2500 participants, et bien 6000 policiers étaient là pour les garder. Je me demande bien ce que pense le contribuable suisse d'avoir 2,8 policiers pour une personne participant à cette grand-messe. Ah ben, je serais bien curieuse de savoir ce que pense le contribuable, la classe moyenne ou le pauvre suisse, parce qu'il va y en avoir quelques-uns. Allez, salut, merci à tous. Je vous embrasse. C'était Michel de Colomiers.
Bonjour à tous les auditeurs. J'appelle pour dire que je suis vraiment mais écœurée. Ça fait 15 jours qu'en Guadeloupe, tout est paralysé. Il n'y avait plus une goutte d'essence, à part pour les véhicules prioritaires. Les rayons sont vides. On a du mal à se fournir en vivres. Enfin, on arrive à manger, mais quand même, c'est pas la vie d'habitude. Et on a eu quelques secondes dans le journal de France 2, dans la réplique, je suis désolée, je suis émue, mais à la rubrique Monde, alors que je pensais que la Guadeloupe, c'était la France. Et puis là, depuis que M. Gigot est arrivé hier soir, on a droit à un reportage de 3 minutes. Alors que ça fait 15 jours qu'on galère ici, quoi. Franchement, alors je sais pas si France 2 est tenue pieds et poings liés par le gouvernement, et à partir du moment où on envoie des solutions, on a le droit de faire un reportage là-dessus. Voilà. Et France Inter n'était pas beaucoup mieux au niveau des journaux, en tout cas. Voilà. Merci, à bientôt.
Oui, bonjour, Dominique d'Orléans. Salut à toute l'équipe. Donc, c'était pour vous dire, j'étais obligé de sortir le dictionnaire hier. Hein. Bon, faut dire à Daniel qu'il arrête son cirque. Hein. On serait cru sur France Culture. Ce Kakoshim, franchement, il fallait aller chercher celui-là. Allez, bonne journée, à bientôt.
Oui, Daniel, salut, c'est Sophie de Parmain, Lille-Adam. Je voulais te dire que Nicolas Sarkozy est en visite en ce moment à Lille-Adam et que j'habite dans un lotissement, hein, juste à côté. J'ai voulu sortir simplement pour me promener, pour faire mes courses. Et nous avons interdiction formelle de bouger de chez nous de 10h à 11h du matin. Il y a un gendarme posté à chaque rue. Et nous sommes tous cloîtrés chez nous, interdiction formelle de bouger. Voilà, donc écoute, je ne sais pas ce que tu penseras de ce message, mais je pense que là, dans ces cas-là, il risque pas d'avoir beaucoup de sifflets. Voilà. Allez, bonne journée. Au revoir.
Oui, ben, c'est un message de stupeur. Je suis tombé par hasard sur votre émission là aujourd'hui où j'entendais une personne qui voulait prendre l'Elysée d'assaut et espérait que ça allait bien se passer. Et puis, j'ai entendu votre présentateur dire « Ah ben, ça fait du bien de rentrer des États-Unis, j'ai bien compris, pour entendre ça. » Enfin, c'est incroyable que sur une radio public, on entend ça. Moi, je pensais, je me demandais si j'étais pas sur une radio du style Radio Libertaire à Lille ou je ne sais quoi. Et là, on est sur une radio censée être grand public. Et à part ça, on parle après de la liberté d'expression qui n'est pas possible sur France Télévisions, Radio Télévisions, je ne sais quoi. Enfin, c'est vraiment incroyable d'appeler les gens ainsi à la révolte et à tout casser sans proposer, bien évidemment, quelque chose de constructif. Écoutez, je vous laisse pas mes coordonnées parce que j'aurais trop peur de représailles. Merci, salut.
Oui, bonjour, c'est Alain de Évreux. Donc, je voudrais dire bonjour à toute l'équipe d'abord et vous dire que dans les rues de Paris, ça caillait hier, mais on avait le cœur bien au chaud. Et j'ai écouté cet après-midi tous les messages des gens là, de toutes les manifs. Ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. Moi, je me dis que d'une manière générale, c'est ça qui pourrait être une radio. Un outil d'expression des gens, quoi. Un outil d'expression de leur vérité, de leurs rêves, de leur réflexion et de leur volonté de construire la société, de leur manière de le faire. Parce que les gens, contrairement à ce que croient tous ceux qui ont au pouvoir, qu'on appelle les élites, mais qui ne sont en fait que des représentants et bien souvent malvenus, les gens, ils sont capables de faire, ils ont les moyens, ils ont l'intelligence, ils ont une vision collective des choses parce qu'ils se rendent compte qu'on est tous dans la merde. Hein, qu'on y est tous, les uns, les autres, moi, toi, et 99% des Français, sauf notre héros national dont vous connaissez le nom. Donc, merci pour ça, merci de faire cette radio qui correspond vraiment à ce que doit être la radio, et non pas ce formatage permanent de toutes ces chaînes de merde, tant à la radio qu'à la télé. Là, j'ai écouté l'autre jour une chaîne qui fait tout foutre, là où tout, toute info continue, quoi. C'est toujours le même formatage, la même daube, 3 minutes, on déverse. Jamais on critique, jamais on fait perspective de distance. Jamais on dit pourquoi et comment, et qui est impliqué, qui a le pognon, et qui tire les ficelles. Ça, jamais. Ça, c'est pas de la radio, c'est pas de la télé, c'est pas du média, c'est de la com. Et ça, ça sert qu'à abaisser des esprits, à détruire les gens. Voilà. Allez, salut à tous, et j'espère que ça va continuer, putain. Un rêve général.
Oui, bonjour Daniel Mermet, c'est Jacques de Lyon. Je vous appelle, j'ai entendu hier le parallèle que vous faisiez entre le spectacle de Dieudonné et le pape Benoît XVI. Alors, je conçois parfaitement que vous soyez anti-calotin, tout ce que vous voulez, anti-clérical, que vous n'aimiez pas Benoît XVI, ça ne me gêne pas trop. Par contre, un peu de nuance, à mon avis, ne nuirait pas à la, disons, pour prouver ce que vous essayez de prouver. Donc l'antisémitisme supposé du pape, évidemment, qui est assez facile à, comment dire, à laisser supposer, vu son origine allemande, etc., le Panzer Cardinal et tout le Saint-Frusquin. Cela dit, je trouve que c'est quand même quelque chose, à mon avis, dans ce cas-là, organiser un vrai débat avec des gens compétents, avec des pour, des contre. Je sais que vous inviterez bien sûr des gens de chez Goliath qui seront suffisamment tapés sur le pape, et puis vous pourrez en inviter d'autres aussi éventuellement. Voilà, cela dit, j'écoute avec beaucoup d'intérêt vos émissions. Voilà, à bientôt.
Bien ces petites cloches, hein, les cloches de la messe qui appellent à la messe en latin. Je ne suis pas spécialement, cher auditeur, anti-calotin. Je n'ai pas fait de procès à Benoît XVI sur un lien possible entre ses origines allemandes et son antisémitisme. J'ai absolument pas parlé de ça. Vous l'avez mal entendu, mais vous pouvez réécouter ce que j'ai dit hier sur labas.org, la-bas.org. Désormais, on peut réécouter les émissions. Et vous verrez que je me suis simplement un peu indigné de ce que l'on lève, que l'excommunication d'un évêque ou d'un prêtre, comme vous voulez, ouvertement, explicitement négationniste, à quelque chose d'assez choquant. Alors, on me dira que lever l'excommunication n'est pas réhabilité, etc. Là, on tombe dans le filandreux propre aux religions en général et aux subtilités qui permettent toujours de noyer le poisson. N'empêche que beaucoup dans ce pays, et pas seulement dans ce pays, sont tout à fait indignés, en colère, et se manifeste et proteste et exige que les choses soient claires et clarifiées. Voilà, aujourd'hui, on va faire un petit tour en Picardie. Pourquoi en Picardie ? Parce qu'en Picardie, il y a Amiens. Et qu'est-ce qu'il y a à Amiens ? À Amiens, il y a Goodyear, Dunlop, la plus grosse entreprise privée de Picardie. Goodyear, Dunlop, les pneus. Hein, pas mal, non? Vous allez voir, c'est très intéressant, très passionnant, comment des salariés de Goodyear et de Dunlop ont résisté différemment à un plan social, ce qui va donner raison à cet auditeur qui disait, avant ses reproches, enfin ses critiques sur l'Église, qu'une émission, une bonne émission, ce serait un outil d'expression des gens. Et ben voilà, ça va être jusqu'à 16h, un outil d'expression des gens que là-bas, si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Cher Daniel et son équipe, bonjour. C'est votre homonyme au féminin, en Saône-et-Loire. Voilà, je suis une personne très handicapée. Jusqu'à présent, je bénéficiais d'une aide dite ménagère. Et j'ai reçu, il y a 48 heures, un avertissement du Conseil général me signifiant que dorénavant, les aides à la personne seraient supprimées au profit d'une aide de matériel médicalisé à domicile et utilisé en présence d'une aide médico-sociale. Mais il n'est pas besoin de cela. Et puis quoi encore? Quelqu'un pour me torcher le derrière? Ah, même si Sarkozy se propose en personne, ben je refuse, je le noie dans ma baignoire. Mais tout est bon pour supprimer nos allocations, nos aides. À quand, grand Dieu du ciel et des enfers, la grande révolte des petites gens qui n'auront bientôt plus pour solution ultime que la mort aura dans leur soupe pour en finir? Au revoir.
Et il y a Didier Porte qui vient de se bouffer Pujadas chez Stéphane Bern. Il vient de lui expliquer un petit peu ce que on est très nombreux à savoir, mais ça fait toujours du bien de l'entendre, que lui et ses petits copains ne faisaient pas leur boulot de journaliste, qu'ils étaient au service de l'oligarchie et certainement pas au service ni de l'information, ni des gens. Enfin, en gros, qu'ils donnaient bien la papate, quoi. Voilà. Alors, je voulais dire un grand merci à Didier Porte, parce que là, il nous a fait une sortie, mais j'en suis tout émue. Voilà, donc c'est Céline et je vous appelle de l'Occitanie presque libre. Ciao.
Avis aux AMG Poitvin, le repère de Poitiers change de lieu et de jour. Ah oui, après quelques petites péripéties. Donc ça se passe maintenant le premier mercredi de chaque mois et ce sera au café A Minima. Ça se trouve Grand Rue, toujours dans le centre-ville de Poitiers. Donc voilà, c'est toujours à 20h par contre. Donc là, ça se passe demain, mercredi, à 20h, au café A Minima, c'est 159 Grand Rue. J'espère, on espère, vous voir nombreux demain. Salut, c'était Sylvain de Poitiers.
Salut Daniel, salut l'équipe. Nicolas Ier, tsar de tous les nantis et ses entourloupettes médiatiques. On va nous expliquer la crise, ouais. Christian Clavier dans le premier rôle, Jean Reno dans le second rôle et Jean-Marie Bigard dans le rôle du bouffon du roi. On est sauvés. Allez, ciao.
Ah, j'ai oublié une petite chose au sujet de David Pujadas. On le voit dans le film Chomsky et compagnie qui explique à quel point il est un journaliste libre. Et vous pourrez le voir ce soir, entre autres personnages, dans Chomsky et compagnie qui sera projeté au Marcel Pagnol à Malakoff à 20h. 17 rue Béranger, le Marcel Pagnol à Malakoff à 20h. Et à l'issue de la projection, j'animerai le débat, je répondrai à toutes vos questions. En route vers la Picardie.
Ceci est une histoire. L'histoire d'une crise financière qui nous appelle, tous, à faire un effort.
La crise financière, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est un 11 septembre de la finance.
Laurence Parisot.
Dans cette situation-là, nous devons comprendre que nous sommes tous dans le même bateau. Que nous devons être solidaires. Que nous devons ramer ensemble pour s'en sortir. Et d'abord ne pas nuire aux entreprises, car elles seules peuvent créer des richesses.
Cette histoire, c'est aussi l'histoire d'une bonne idée. Celle d'un homme, Olivier Rousseau, PDG d'une société qui, en 2007, allait doubler les rémunérations de ses dirigeants. Son idée, faire face à la crise, faire passer les ouvriers de son usine au 4-8.
Pendant plus de 4 mois, on va faire 48 heures par semaine, avec 2 jours de repos. Ça veut dire 2 matins, 2 nuits, 2 après-midi, 2 jours de repos. Les heures supplémentaires ne sont pas payées, sont englobées dans la prime de 140 à 190 euros. Et pour les vacances, c'est pareil, on n'a pas le choix. C'est on est à la disposition de l'entreprise, même pour les enfants, on est à la disposition de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est soit on accepte ça, ou soit on est licencié.
Mais cette histoire, c'est aussi l'histoire d'ouvriers grognons, archaïques, rétrogrades, qui refusent d'accepter les sacrifices nécessaires à la satisfaction des actionnaires.
Aujourd'hui, on sait tous que les entreprises du CAC 40, contrairement à ce que vous nous faites croire, ils roulent quand même bien sur l'heure, que les patrons n'ont vraiment pas à se plaindre et que je pense qu'ils se servent de la crise pour faire du chômage partiel. Nous, on dit non, c'est fini. Voilà. Et comment faire? Moi, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Il faut bloquer la France qui aujourd'hui se fout de notre gueule. Et c'est quoi la France qui se fout de notre gueule? C'est le capital.
Voilà, c'est Daniel Mermet, c'est la Massie. J'y suis avec Renaud Lambert. Les Goodyears se sont pas dégonflés.
Flight number 2, arriving from New York.
Amiens, il y a deux usines de pneumatiques. D'un côté de la rue, on a réorganisé le travail, les emplois sont sauvés. De l'autre côté de la rue, la CGT a refusé la réorganisation, pourtant votée par les salariés. Les emplois vont être supprimés.
Éditorial de Christophe Barbier sur le site internet de l'Express.
À cause d'un archaïsme syndical, une fois de plus, on a choisi de faire perdre leur emploi à des salariés français.
Le 16 juillet 2008.
C'est regrettable. À l'heure où, au niveau des centrales syndicales, les chefs syndicaux évoluent vers un réformisme intelligent, acceptent le dialogue, acceptent de bouger avec des leaders comme Bernard Thibault pour la CGT, Jean-Claude Mailly à Force Ouvrière, ou bien sûr, François Chérec à la CFDT, et bien à l'heure où au sommet, tout se passe bien, à la base, il y a un durcissement archaïque. On exhibe des arguments spécieux pour dire qu'il ne faut pas bouger, qu'il ne faut pas s'adapter. Mais ne pas s'adapter, c'est mourir. C'est ce qui va arriver à tout un pan de l'industrie pneumatique d'Amiens en Picardie. C'est ce qui arrivera à d'autres très très vite si l'on fait ce choix-là dans d'autres secteurs de l'industrie.
Merci Christophe. Bravo Christophe, formidable. Oh là là, tu l'as drôlement bien fait. Oh là là, nous on le manque jamais. Christophe Barbier. Oh, son édito en vidéo dans les bureaux de l'Express. L'Express, pardon, pas l'Express. L'Express. Oh, il est formidable. Avec son écharpe rouge. Il a toujours une écharpe rouge, ce gars-là. Et une cravate. Et là, pour dire ce que vous venez d'entendre, il marche dans des gravats. Ouais, dans des gravats, enfin des, vous voyez, des panneaux qui sont par terre, qui sont tombés, des morceaux de polystyrène, des bouts de bureau et tout, carrément, quoi, un peu, oui, une barricade un peu dans son bureau. Et puis alors il avance, et puis alors derrière, là ça se calme, puis on voit des tas d'autres journalistes, je sais pas, qui sont en train de tapouiller sur leur ordi, là, tout calme, et puis il continue, le durcissement archaïque, ne pas s'adapter, c'est mourir. Non, il est vraiment très, très bien. Et il est là pour ça, il fait son boulot, il le fait formidablement, et il nous aide beaucoup. On pourrait tout au point arrêter cette émission et passer de la musique jusqu'à 16h après Laurence Parisot qui nous explique que c'est la crise, c'est une crise terrible, il faut se serrer les coudes, l'ennemi est à nos portes, l'ennemi est parmi nous, c'est pas du tout le moment de se diviser entre Français, mais non, et tous dans le même bateau. La crise est terrible, la crise est fantastique, la crise est formidable, elle arrive, elle va être, serrons-nous les coudes, ne luttons pas, n'exigeons rien, c'est, couchons-nous, voilà, couchons-nous, en attendant que ça passe. Alors, mais ils ne sont pas couchés. Ils se sont pas couchés, les gens de Goodyear Dunlop. C'est à Amiens. Goodyear Dunlop, c'est le plus gros employeur privé de Picardie, je le disais en commençant. Or, début 2007, les 2700 salariés de Goodyear Dunlop rejettent un plan de réorganisation du travail voulu par la direction. En octobre 2007, 65% des salariés rejettent le projet de la direction qui prévoit une réorganisation du travail sur le modèle des 4-8. Les 4-8 entraînent des suppressions de postes, 450 ou 402 plus précisément, après des négociations. Mais, en échange de ces suppressions, la direction promet d'investir 52 millions d'euros pour moderniser l'outil de production. Voilà la proposition de la direction. C'est à prendre ou à laisser de toute façon, car sinon l'entreprise n'aura pas d'avenir. Alors la guerre commence entre les salariés et la direction, et il y a deux usines. Il y en a une qui s'appelle Dunlop et l'autre s'appelle Goodyear, même si c'est la même entreprise. Il va se passer que les salariés de Dunlop vont accepter, vont négocier et accepter, et ceux de Goodyear ne vont pas accepter et vont faire de la résistance et vont faire partie de ce durcissement archaïque si justement, judicieusement dénoncé par Christophe Barbier de l'Express. C'est ça qui a intéressé Renaud Lambert. Pourquoi les uns ont résisté, les autres n'ont pas résisté, et que leur est-il arrivé? On va le savoir d'ici à 16h. Là-bas, si j'y suis, les Goodyear se sont pas dégonflés.
syndicat nous protège.
Nous ne bougerons pas.
Le syndicat nous protège.
Nous ne bougerons pas.
Il nous protège. Et notre union protège notre syndicat. Que l'on recule,
nous ne bougerons pas, nous restons là.
C'est quoi notre misère qui reculera?
Comprendre la situation, c'est bien sûr vers Olivier Rousseau, le PDG de Goudure France, que nous nous tournons tout d'abord. Un homme qui, vous l'entendrez, peine à cacher la tristesse que suscite chez lui l'incompréhension de ses salariés.
Aujourd'hui, on a un site industriel, donc Amiens Sud, donc qui a signé un accord donc de mise en œuvre d'une organisation du travail en 4-8. Et on a un autre site industriel, Amiens Nord, donc sur lequel aucune organisation syndicale n'a souhaité donc signer ce protocole d'accord. Donc on en tire les conséquences, on l'avait annoncé, donc à défaut d'accord, on serait contraint, et on le regrette, donc de réduire les volumes de production et de fait les effectifs. Le temps qui nous est imparti est extrêmement court. Si les organisations syndicales ou les salariés souhaitent m'envoyer un signal, ils ont intérêt à le faire extrêmement rapidement.
Essentiellement, ils vont partir de la main de Rousseau. Il aura du sang sur ses mains, ce mec-là. Parce que c'est la réalité. Les mecs, ils vont se flinguer là-dedans. Se flinguer. On est dans un bassin d'emploi, il n'y a plus rien. Et ça, ils le savent. Et ils pensent nous tirer par les couilles parce qu'il y a du chômage. Le chômage est entretenu par le gouvernement pour faire pression sur les salariés. Et qu'on accepte le minimum du minimum. Eh ben non, on pliera pas. Et moi, je pense que tout doit partir d'une usine comme la nôtre en France. Parce que partout, les gens se plaignent. Le prix du pain, le prix du gasoil, le prix des loyers, le prix de tout. Il y a des gosses d'ouvriers, ils n'auront pas le droit de faire d'études. Et puis il y a les gosses de riches, ils ont le droit de faire des études, ils vont nous écraser un peu plus. Le peuple français, comme celui-ci, je suis désolé, on a fêté le 14 juillet, eh ben, devra avoir honte. Honte, parce qu'on a tout perdu. 36, on peut tout recommencer à zéro. Aujourd'hui, on se bat pour garder le minimum du minimum. Même nous, les syndicalistes les plus durs, on est prêts à accepter à ce qu'on travaille en continu. C'est grave quand même le recul social dans lequel on est en train de nous mettre. Ça, c'est très grave.
Voilà, hein, eh, oh, c'est envoyé ça, non? Bon, du coup, on est allé là-bas. À Amiens. Bon, enfin, Renaud Lambert est allé là. Et qu'est-ce qu'il a rencontré? Eh ben, Michael Vamin, que vous venez d'entendre, et qui est le délégué CGT de Goodyear, pas moins.
Alors là, on se trouve à Amiens, on est dans un café qui s'appelle le Monitor. Donc, on va essayer de raconter la lutte pour voir un petit peu pourquoi vous avez fait ça.
Bah, la lutte, comment elle a commencé? La lutte, elle a tout simplement commencé. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Goodyear. Goodyear a racheté 75% des parts de Dunlop en Europe pour devenir un des leaders mondiaux du pneumatique. Et on sait tous pertinemment que les fusions-absorptions, à chaque fois, c'est ceux qui sont au centre même du débat, c'est-à-dire les salariés, qui subissent le plus. Donc ça a permis à Goodyear d'accroître aujourd'hui, effectivement, sa notoriété. Et donc on nous a dit, toutes les usines en Europe sont passées dans un système qu'on appelle les 4-8. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, on a un système de rotation où on ne cesse de travailler tout le monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que ça devient à banaliser le travail du samedi-dimanche. Et effectivement, ça fait en sorte que, par exemple, les jours fériés, les samedis, les dimanches, deviennent des journées, entre guillemets, normales. C'est-à-dire que la direction, elle a tout à gagner. Alors, on nous dit, il faut passer en 4-8 dans un premier temps, avec une enveloppe d'investissement de 26 millions par à peu près chaque établissement.
Ça veut dire investir dans l'outil, c'est ça?
Dans l'outil de travail, mais quand on regarde bien, 26 millions, c'est rien. Quand on s'aperçoit qu'ils investissent 500 millions de dollars dans des usines en Russie, en Pologne ou en Tchéquie, on s'aperçoit qu'effectivement, on est très très loin du compte. Et rien que pour remettre à niveau notre outil de travail, il faudrait déjà 80 millions d'euros d'investissement. C'est-à-dire que pendant des années, Goodyear, on a vécu sur ce qu'on avait comme technologie. Ils n'ont plus jamais investi. Et d'ailleurs, ça leur a permis de nous amener dans une situation quasiment, et on l'a vu chez Dallop, d'être obligés d'accepter ce système 4-8 pour sauver, entre guillemets, l'emploi.
Alors, ce que vous nous dites sur les investissements, c'est que alors qu'on investit finalement peu ici en France, on investit à fond dans d'autres pays où on sait la main-d'œuvre est moins chère, c'est ça? Bah,
c'est-à-dire qu'on investit massivement, Goodyear investit très massivement, comme tous les pneumaticiens, que ce soit Michelin, Bridgestone et Goodyear, dans les pays de l'Est. Il n'y a pas d'évolution de croissance du marché mondial de pneumatiques. Il y a simplement un transfert, à un moment donné, d'une production d'un pays, entre guillemets, dit à haut coût de main-d'œuvre, vers un pays où à bas coût de main-d'œuvre. Mais le vrai problème de fond, c'est même pas le coût de main-d'œuvre. C'est la déréglementation totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on quitte la France, qui est un pays dans lequel il y a des droits pour les salariés, pour aller, par exemple, dans des pays où il n'y a aucun droit. Et je pense que la première motivation aujourd'hui pour les patrons, c'est plus le coût du travail. C'est la non-protection sociale. C'est-à-dire que, par exemple, un salarié chinois qui se blesse, il va être licencié parce qu'il a fait une faute. Un salarié français qui se blesse attaque son patron, généralement, il gagne pour faute inexcusable. La différence, elle est hyper importante parce qu'on sait tous, pour eux, on est aujourd'hui on est une matière première, on est aussi malléable qu'un morceau de gomme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis un numéro de pointage. Demain, je me blesse. Si je suis en Chine, on mettra un nouveau numéro de pointage. Et moi, je suis un de ceux qui disent aujourd'hui, je continue à dire que le coût du travail, c'est pas ce qui les motive pour se barrer en premier lieu. Ce qui les motive pour se barrer en premier lieu, c'est qu'aujourd'hui, un salarié français, il a des droits. Et ça, ça les gêne.
Voilà. Ainsi s'exprime Michael Vamin. Mais là, et les conditions de travail chez Goodyear, comment ça se passe? Ça va être agréable, non? Petit tour.
Lorsque nous nous présentons aux portes de l'usine pour observer ces lignes de production dont Michael Vamin nous explique qu'elles ont fait l'objet de si peu d'investissements depuis des années, on ne nous laisse pas rentrer. Il y a quelque temps pourtant, un collègue de France Bleu Picardie avait eu plus de chance.
L'intérieur de l'usine Goodyear au rez-de-chaussée ressemble à toutes les usines. Des machines à perte de vue, de longues allées dans lesquelles circulent des fenwicks, des chaînes aériennes qui transportent des produits fabriqués, en l'occurrence ici des pneus. Bref, rien de bien surprenant, sauf quand on descend à l'étage inférieur. En nous y rendant, nous rencontrons un homme sur un fenwick. Son visage et son bleu de travail sont couverts d'une poudre blanche qui sert à faire de la gomme.
Bienvenue dans la misère du monde. C'est envoyé de fumée ici.
J'ai attiré MBA, je peux rien dire.
Ils sont ici pendant 4 heures non-stop sans pouvoir bouger.
Et ils mettent les intérimaires parce que quelque part ils leur font faire toute la merde aux intérimaires. 90% des postes des Milman sont pris par les intérimaires parce que c'est beaucoup trop contraignant pour les gens.
On va de machine en machine qui font de la gomme, sur le sol de la poudre, ici de la crasse noire, là une flaque d'huile, un peu plus loin.
Un distributeur d'eau dans la cave du Bambury, regardez, il y a une timbale pour tout le monde. Le mec qui a soif, il prend la timbale, il la rince un petit coup, hop, la timbale est complètement noire. C'est innommable.
Sur la droite de la fontaine à eau, une armoire électrique devant laquelle s'étend une flaque d'eau.
On travaille les pieds dans l'eau sur du 380 volts.
Est-ce qu'il y a un contrôle de l'inspection?
Ah bah généralement, il faut arrêter les machines et on nettoie tout. Il faut bien que ce soit ciré, le cinéma habituel. Quoi.
Philippe Husted, France Bleu Picardie, pour France Info. Oh,
on a un taux d'accident du travail énorme dans cette entreprise.
Ouais.
Entre 2006 et 2007, un accident du travail par jour. En 2008, sur les 7 premiers mois de l'année, on a 1,5 accident du travail par jour.
Et en 2007, Dallop Goodyear a doublé les rémunérations de ses dirigeants. Retour au bistrot avec Michael Vamin de la CGT. J'insiste CGT parce que pour la CFTC, il n'y a pas d'alternative.
Alors, on vous fait cette proposition alléchante donc de travailler 4-8, c'est plutôt non quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'on obtient à ce que la direction mette en place ce qu'on appelle une consultation du personnel ou référendum, on peut l'appeler comme on veut, avec une question simple, c'était êtes-vous pour ou contre les 4-8? 78% du personnel refuse les 4-8. Dès lors qu'une organisation syndicale représentative respecte le choix du personnel, il appartenait donc à la CGT de dire « nous ne signerons pas les 4-8 ». Mais non seulement nous les signerons pas, mais s'ils sont signés par des syndicats minoritaires qui ne vous représentent pas et qui ne vous ont pas écouté, comme nous sommes un syndicat majoritaire et que depuis un certain nombre d'années, le syndicat majoritaire a un droit d'opposition, mettre en place ce droit d'opposition, on annulera l'accord. C'est ce qu'on a fait au mois de juillet. Au mois de juillet 2008, l'accord a été signé par des syndicats ultra-minoritaires. Un exemple, la CFTC, section syndicale créée par un mec de Dallop, en vue de signer l'accord 4-8, parce qu'on va pas se raconter de conneries.
L'usine d'à côté. Non.
L'usine d'à côté, Dallop, qui nomme un mec chez nous, chez Goodyear, pour dire on va nommer un délégué syndical qui a aucune représentativité quelconque, qui a aucun droit de parler au nom des salariés parce qu'il n'est pas élu, mais il est simplement mandaté. Et le mec, il signe le 4 juillet l'accord 4-8 alors qu'on n'en voulait pas.
Majoritaire, la CGT et Sud rejettent l'accord. Un accord cependant signé par deux syndicats minoritaires, dont la CFTC ce matin.
Nous sommes conscients que les 4-8 va nuire à la vie familiale des salariés. Mais nous, CFTC, on le disait depuis un an et demi, il n'y a pas d'alternative à ces 4-8. Et nous disons que que le chômage serait beaucoup plus destructeur pour les 1400 salariés que les 4-8.
Il y a des anciens qui sont battus pendant des années pour nous pour avoir les droits au CPLT. Il y a des anciens qui sont battus pour avoir un certain nombre un certain nombre d'avantages.
Michael Vamin, délégué CGT à l'usine Goodyear d'Amiens.
Je pense que reculer sans arrêt en disant bah ouais mais de toute façon il faut qu'on regarde ce qu'on peut laisser pour essayer de sauver encore un peu plus nos emplois. Partout on peut regarder dans la région, Bosch, Whirlpool, ils ont fait des efforts. Je prends un autre exemple, Continental à Clairvaux. Ils ont accepté le passage en 4-8 à 40 heures. Aujourd'hui, on annonce 550 000 pneus qui quittent cette usine-là pour aller en Moselle. Et après la Moselle, ça ira en Allemagne. Après l'Allemagne, ça partira en Pologne. Ça
veut dire que même lorsqu'on accepte le plan du patronat, on n'est pas sûr de garder son emploi.
Ben, moi, je dis que c'est pire parce que on se fragilise. Dès lors que l'on donne un signe fort à une direction qu'on est capable d'accepter de baisser notre froc pour gagner notre emploi, ils iront jusqu'au bout. Et le bout, c'est quoi? C'est d'aller à la finalité, fermer l'usine et nous lessiver complètement. On l'a vu aujourd'hui, par exemple, avec l'usine Bosch à Beauvais. Ils ont tout accepté. Ils ont accepté un retour en arrière. Ils ont accepté de laisser des CP. Ils ont accepté de laisser leur RTT. Ils ont accepté de laisser de l'argent le 13e mois. Et au bout du bout, on leur dit, vous avez fait des efforts, c'est bien. Et malheureusement, c'est pas suffisant pour rivaliser avec les Chinois. Parce qu'au début, on leur a parlé de Polonais, puis après, on leur a parlé de Chinois. Et au bout du bout, la réalité de ces gens-là, c'est qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans un système qui s'appelle le chômage. Et comme ils ont perdu tellement d'indemnisation, tellement de rémunération annuelle, bah, c'est que la prime de licenciement qu'ils devaient avoir, puis le droit au chômage, bah, elle a diminué d'autant que ce qu'ils ont fait comme effort. Et tout ça, pourquoi? Pour enrichir encore plus les actionnaires pour qu'ils investissent ailleurs. Bah, ça, c'est niet. Moi, je pense que chez Goodyear, aujourd'hui, on a montré l'exemple d'un certain nombre de choses. Moi, ça fait 17 ans que j'y suis, ça fait 17 ans que je connais la lutte dans cette usine. Et si on n'avait pas lutté, l'usine serait fermée depuis longtemps, à mon sens.
Ce sont les flammes d'une colère qui viennent embraser le regard de l'éparpillement de mes frères. Les copains du « c'est pas trop tard ». C'est une joie démesurée de faire les grandes découvertes de nos histoires sans passer, de nos conneries recouvertes. Notre fierté d'être sans haine et de retourner au charbon en gueulant « les gars, faut qu'on s'aime et le chemin sera moins long et c'est pas fini et ça continue. Vas-y patron, serre-moi un rêve, je te le paierai en fourri. Il est pas l'heure de la trêve, on laissera pas nos points mourir. » Si on fait la collecte des rires, c'est pour préparer nos combats. C'est parce qu'on sait pas trop quoi dire à part regarder plus en bas. Et si on mélange nos pleurs dans une mer d'amitié, c'est qu'il nous reste un peu de peur et qu'on a su la partager. Pour de sublimes engueulades, bien allumer le petit jour, c'est la honte d'un monde malade. Et c'est pour ça qu'encore on courait, c'est pas fini et ça continue. Vas-y patron, serre-moi un rêve, je te le paierai en fourri. Il est pas l'heure de la trêve, on laissera pas nos points mourir. Et vous êtes en timidité, tellement que vous aimez les autres. Pas besoin de vous imiter, passez, je vous aime, c'est vous mes autres. Quand la folie dévaste tout, on voyage par petits bouts de phrases, un tour de terre en rien du tout. C'est notre cafard qu'on écrase, quand on prend le temps de s'asseoir au comptoir des quand même contents. On se dit que ça s'appelle l'espoir, on se dit qu'on a encore du temps. Et que c'est pas fini et que ça continue. Vas-y patron, serre-moi un rêve, je te le paierai en fou rire. Il est pas l'heure de la trêve, on laissera pas nos points mourir. À l'attaque.
Ça nous amène aux difficultés des salariés de Goodyear Dunlop.
Amiens, le fabricant de pneus Goodyear Dunlop, se trouve confronté à une situation inattendue dans deux sites différents.
Dans la même rue, deux usines de pneumatiques. Des noms différents, mais un même groupe. Les syndicats n'ont pourtant pas fait le même choix.
Dans l'ex-usine Goodyear, les ouvriers ont refusé la réorganisation du travail.
Paradoxe, les salariés de l'usine d'à côté, Dunlop, qui appartient au même groupe, ont décidé d'adopter les 4-8 pour éviter les licenciements, 402 au total.
Chez Goodyear, ils ont refusé. Conséquence, aujourd'hui, la direction a annoncé la suppression de 402 emplois.
Donc voilà un petit peu aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est. On est chez nous aujourd'hui, chez Goodyear, dans une usine où on continue à tourner dans les systèmes qu'on avait avant, c'est-à-dire d'un côté les 3-8, de l'autre côté les gens qui travaillent exclusivement le week-end. Et puis on a l'usine de Dunlop qui, depuis le 2 janvier, a démarré en 4-8.
Parce que oui, ils ont accepté.
On va pas dire qu'ils... Alors, faut bien différencier une chose, c'est que les salariés de Dunlop ont refusé. Mais des syndicats véreux et qui magouillent sans cesse depuis un certain nombre d'années... ont été, à mon avis, forcés, contraints d'accepter contre par intérêt personnel. On va pas se raconter d'histoire. Et donc, effectivement.
Vous dites qu'ils ont, on leur a glacé la patte, quoi.
Moi, je pense, oui, bah, de toute façon, on va pas se raconter d'histoire. Aujourd'hui, on est effectivement dans une situation où on s'aperçoit que sur le site de Dunlop Amiens, eh ben, les salariés aujourd'hui sont dans un système 4-8 qu'ils n'ont pas voulu. Et ça fait 15 jours aujourd'hui qu'ils sont dans le système 4-8. Et on entend déjà des retours des mecs qui disent, on va pas pouvoir tenir un mois. C'est pas possible. Deux jours du matin, deux jours d'après-midi, deux jours de nuit, avec un repos, et puis deux repos derrière, les mecs ils disent on peut plus, parce qu'à un moment donné on sait même plus quel est notre rythme de travail, on sait même plus ce qu'on doit faire dans la journée, on est de quoi, on est du matin, on est d'après-midi, on est de nuit, on ne sait plus.
Pourtant c'est les gens de Dunlop qu'on avait montré en exemple contre ceux de Goodyear. On avait dit eux ils ont compris, ils font l'effort de la réforme. Très bien, c'est un peu difficile aujourd'hui, mais demain, c'est comme ça qu'on va sauvegarder l'emploi. On avait même dit, c'est la CGT qui va faire perdre des emplois aux salariés de Goodyear.
Bah les médias, effectivement, ils ont eu une... Je pense que les médias, ils ont endossé le rôle de la direction quelque part.
Des réductions d'effectifs en perspective également chez Goodyear Dunlop.
Harry Roselmack.
La direction du groupe a confirmé son intention de supprimer 402 emplois dans son usine d'Amiens Nord dès septembre.
TF1, 15 juillet 2008.
Conséquence du rejet par la CGT d'un projet de réorganisation du travail dans l'usine.
On était étonnés au début quand... vous souvenez, septembre, octobre, par là, quand on a commencé à nous dire, oui, c'est la crise, oui, il faut reconnaître, oui, ça va être terrible, oui, on va perdre des emplois massivement, oui, c'est curieux quand même cette façon d'annoncer comme ça, cette soudaine lucidité, cette façon de noircir le tableau. C'est pas dans les habitudes des gouvernements qui nous disent toujours, tout va bien, dormez, braves gens, non, tout d'un coup, c'était s'éveiller. Oui, mais non, ça, on n'avait pas compris tout de suite. On est toujours tellement naïfs, nous, tellement candides, avec nos grands yeux clairs. C'était simplement qu'il fallait comprendre que c'était quelque chose qui était un petit peu comme la guerre, si vous voulez. Et comme, enfin, la guerre autour du pays. Et quand c'est la guerre, quand c'est terrible, quand c'est la crise, comme ça, eh ben, il faut se serrer les coudes. C'est pas le moment de se diviser. C'est pas le moment de faire comme ces salariés, de Goodyear qui exige des choses mais impossibles. C'est, il faut s'adapter, il faut pas être archaïque, les gars. On vous l'a dit, on vous le répète, vous ruinez la France.
Laurence Parisot, présidente du MEDEF sur France Inter le 25 septembre 2008.
La crise financière, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est un 11 septembre de la finance. Dans cette situation-là, nous devons comprendre que nous sommes tous dans le même bateau, que nous devons être solidaires, que nous devons ramer ensemble pour s'en sortir. Et d'abord ne pas nuire aux entreprises, car elles seules peuvent créer des richesses. Il n'y a pas un pays au monde où les taxes pénalisent autant les entreprises qu'en France. Nous sommes tous dans le même bateau.
On nous parle de milliards, de milliards, de milliards d'euros par jour. On donne, par exemple, 1,5 milliard d'euros à une banque, et puis on s'aperçoit que la semaine d'après, bah, 200 actionnaires de cette banque ont été bouffés dans un restaurant sur Paris, et puis un des plus célèbres, puis que ça a coûté 500 000 euros. Et je vais dire, à côté de ça, le pauvre con qui est en train de regarder sa télé et qui est lobotomisé par TF1 parce qu'on lui dit que si tout va mal, il faut qu'il serre la ceinture. Ben moi, je suis désolé, à un moment donné, moi, je le dis clairement, on va peut-être faire que les gens, je vais dire comme je le pense, s'arrachent un peu les doigts du cul puis qu'ils bougent, parce que le vrai problème de fond, il est que la rue, elle doit reprendre un petit peu aussi son rôle. C'est son rôle qui lui appartient. Et contrairement à ce que dit Sarkozy, quand les gens manifestent, on s'en rend même plus compte. Ben justement, faisons-lui voir qu'on en a ras-le-bol aujourd'hui d'être méprisé à ce point et que c'est complètement anormal de profiter d'une pseudo-crise pour effectivement mettre des milliers et des centaines de milliers de familles dans la merde telle qu'ils sont en train de mettre. Parce que s'il n'y avait pas de crise avant, il va y avoir forcément une crise après. Le chômage partiel qui nous fait perdre 50% de rémunération va forcément, inéluctablement, nous amener à une crise. Si elle n'existait pas avant, elle existait forcément après.
En point de Michael Vamin, CGT, Goodyear, Amiens, à la veille, évidemment, de la grande journée du 29 janvier dernier. Il avait complètement oublié que c'est les entreprises seules, qui peuvent créer des richesses.
Alors, le discours que vous tenez, on sent, il est assez radical. Récemment, il y a eu un bon test pour savoir comment ça passait auprès des salariés, c'était les élections prud'homales. Comment ça a marché pour vous?
Chez Goodyear, 7 syndicats. CGT, CFDT, CFTC, FO, Sud, UNSA, qui est... le syndicat UNSA, ce qui est quand même assez folklorique, c'est les signataires de l'accord 4-8 chez Dunlop qui portaient l'étiquette CGT, qui ont été exclus du syndicat depuis leur signature. Et je trouve que d'ailleurs là-dessus, je tiens à féliciter la Fédération nationale des industries chimiques d'avoir fait cet excellent travail de nous débarrasser de cette vermine qui a signé l'accord 4-8 chez Dallop. Et donc, malgré ces 7 syndicats, on fait 82,7%.
C'est pas mal ça.
C'est on va dire relativement confortable. On aurait pu faire mieux si il y avait pas eu un petit peu de gens empêchés de voter pour tout un tas de raisons procédurières. Cela étant. Les dernières élections prud'homales, on avait fait à peu près 70%. Ça veut dire qu'on monte, on monte, on monte. Ça veut dire aussi que le travail qu'on fait, il est reconnu de tous. Parce que, par exemple, on va prendre un exemple qui me paraît vraiment le plus frappant. C'est que là où on progresse le plus, c'est dans le collège, deuxième collège. C'est-à-dire que le syndicat qui est censé représenter les cadres et les agents de maîtrise, qui est la CGC, s'effondre littéralement. Et c'est nous qui, aujourd'hui, à travers ça, récupérons les voix de ce syndicat. Ça veut dire qu'y compris chez les collaborateurs, les gens se retrouvent vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre action.
Les propos du syndicaliste Michael Vamin nous surprenaient, nous qui, quelques années plus tôt, lors d'une université d'été du MEDEF, avions pu rencontrer deux jeunes femmes, salariées de MEDEF territoriaux, qui nous avaient présenté une vision beaucoup plus moderne des rapports sociaux au sein de l'entreprise.
Un dernier exemple qui montre bien qu'en France, au niveau de la plupart des salariés, on a vraiment un état d'esprit particulier à l'égard du patron, c'est que moi j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui travaillent avec des chefs d'entreprise étrangers, notamment en Italie, et ils me disent voilà, en Italie quand le patron il arrive avec une belle voiture, c'est très bien, les ouvriers sont contents parce que ça veut dire que l'entreprise marche bien, le patron a les moyens de se payer une belle voiture, donc ils sont contents, ils sont fiers. Ils sont fiers aussi d'aller faire leurs courses en bleu de travail. Ils sont fiers d'appartenir à une entreprise qui gagne de l'argent. En France, c'est pas du tout comme ça. Le patron, si vous le voyez arriver avec une belle voiture, c'est un salaud, c'est un profiteur. À la limite, il lèse les salariés. Donc, il y a un problème de culture par rapport à ça. Et...
Ils sont pas fiers de leur patron qui a une belle voiture.
Jamais. Enfin, c'est très rare.
Ils seraient peut-être fiers si eux, ils avaient une belle voiture, non?
On n'en sait rien. On leur a pas posé la question.
Il faudrait leur donner la belle voiture avant, c'est ça?
Voilà, et puis voir après comment ils réagissent.
Voilà, mais pour qu'ils aient la belle voiture, peut-être qu'il faudrait qu'ils aient le courage de devenir eux-mêmes chefs d'entreprise. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Pour être chef d'entreprise, gagner bien sa vie en tant que chef d'entreprise, ça veut dire qu'on a pris des risques à un moment donné dans sa vie, y compris dans sa vie familiale. Et ça, ce risque, ça se rétribue quelque part.
Voilà.
Donc il faut que les salariés comprennent qu'eux-mêmes ne peuvent pas avoir cette rétribution-là.
D'accord.
Voilà.
Je viens, hein. Vous avez compris? On vous repassera ça. Vous compreniez bien un petit peu pourquoi, comment ça marche tout ça et pourquoi il faut pas protester. Faut pas protester du tout. Tout ça, c'est du temps perdu. C'est de l'archaïsme. Alors, écoutez ce que va dire ce gars-là, ce Michael Vamin de la CGT de Goodyear qui nous parle du fond du Monitor qui est le café du coin.
On est pro au dialogue. Mais par contre, il y a une chose qu'on ne respecte pas. Ceux qui affichent un mépris total par rapport au monde du travail, ceux qui aujourd'hui pensent que la seule liberté, c'est la liberté du fric, et ceux qui pensent aujourd'hui que parce qu'on est un travailleur français, parce qu'on exige avoir un niveau de rémunération satisfaisant, parce qu'on veut garder notre vie de famille, parce qu'on veut vivre un petit peu comme eux qui détiennent les pouvoirs parce qu'ils ont du fric. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la plage, le dimanche, c'est pas uniquement pour les patrons. Aller au cinéma avec son gosse le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, ça n'appartient pas qu'au patron. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans cette logique. On a d'un côté les patrons qui voudraient tout pour eux, parce que j'estime qu'ils en veulent encore plus que ce qu'ils avaient, et ils veulent nous écraser encore un peu plus. C'est-à-dire que pour eux, il est tout à fait normal qu'un salarié puisse avoir une voiture neuve, qu'un salarié puisse faire plaisir à son enfant, qu'un salarié puisse avoir un 13e mois, qu'un salarié puisse faire un réveillon en famille. Tout ça, aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent mettre à mal, parce qu'ils estiment qu'en fin de compte, on doit revenir dans le temps où il y avait d'un côté les rois, de l'autre côté les esclaves. Et on est arrivé un petit peu dans cette période où on s'est dit, mais attendez, tout ce qu'on a obtenu, on l'a obtenu par la lutte. Il y a eu 36, mise en place des congés payés, tout un tas de choses. J'ai lu dans des bouquins qu'en 1936, les patrons disaient, oh là là, s'il y a les congés payés, on va être obligé de se barrer, on n'aura plus d'argent. Ça n'empêche qu'on est aujourd'hui à 5 semaines de congés payés, et tout le monde est bien content de les avoir, y compris les cadres dirigeants ou les patrons aujourd'hui en France. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on demande à un PDG d'une entreprise française, qui a fait le tour du monde. Pourquoi il est arrivé en France? Tout simplement parce qu'il dit le niveau de vie français est un des meilleurs au monde. Le niveau de protection sociale est un des meilleurs au monde. C'est-à-dire que ces gens-là, eux, ils viennent en France, ils devraient se saisir que du bon. Et dans le même temps, au moment qu'ils arrivent en prenant le bon, ils voudraient nous ramener à un niveau inférieur à ce qu'ils étaient avant qu'ils arrivent. Je suis désolé, si pour eux ça va pas, ils se tirent. Mais en tout cas, ils doivent nous laisser.
Il nous manque, pensent qu'ils vendent, ils nous baladent, ils nous vendent que des salades. Y'en a marre des boniments.
Il nous ment.
On fera pas de concessions, y'aura pas d'arrangement.
Il nous ment.
Il nous promet des embauches, y aura des licenciements.
Il nous ment.
Pas question qu'on lui laisse faire ça impunément.
Il nous ment.
Et méfions-nous des reculades quand il parle avancement.
Il nous ment.
Ce qu'il veut, c'est nous casser purement et simplement.
Il nous ment.
On va lui répondre merde, poliment mais fermement.
Il nous ment.
Y a trop des belles paroles, on veut de vrais changements.
Il nous ment.
En un an, on gagne moins que ses frais de déplacement.
Il nous ment.
S'il me donne son salaire, je veux bien ses embêtements.
Il nous ment.
Qu'il ajoute son capital et je prends tous ses tourments.
Il nous ment.
On est là et on y reste, surtout pas d'affolement.
Il nous ment.
Je vous jure, cette affaire aura du retentissement.
Il nous ment.
Le conflit social du siècle à l'écran prochainement.
Il nous ment.
Tout le monde est alerté, même le gouvernement.
Il nous ment.
Ça débraye de partout et y a l'effet d'entraînement.
Il nous ment.
Partout des gens se lèvent, ça sent le soulèvement.
Il nous ment.
C'est la grève générale qui suit généralement.
Il nous ment.
C'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades. Y'en a marre des boniments.
Il nous ment. C'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades. Y'en a marre des boniments.
Et puis notez que concernant le plan social de chez Goudière, le tribunal de grande instance de Nanterre a rendu sa décision aujourd'hui. Cela fait des mois que les salariés sont mobilisés contre ce PSE. Et bien le TGI l'a jugé invalide cet après-midi. Le plan social est donc annulé et reporté. Chez Nalop, en revanche, l'accord signé sur les 4-8 est en voie d'être appliqué.
Qu'en est-il donc, après la décision du tribunal, du nombre d'emplois que l'archaïsme syndical de la CGT, dénoncé par Christophe Barbier, aura fait perdre aux salariés de Goudière Amiens?
Il devait y avoir 178 suppressions d'emplois chez Dalop, 402 chez Goudière, ce qui fait un total de 580. À l'heure où je parle, il n'y en a pas un. Il n'y a pas eu un licenciement. Il y a même eu 9 embauches. 9 embauches sur le site de Goudière Amiens. On a menacé la direction d'aller devant les tribunaux puisqu'elle utilisait du personnel intérim sur le secteur de l'activité agricole, de pneumatique agricole, et donc elle s'est sentie obligée, contrainte, forcée, à embaucher 9 personnes. Donc je serais tenté de dire qu'on a sauvé plus de 500 emplois, plus 9 qu'on a créés. On a quand même gagné l'annulation du plan social. Alors certains disent oui, mais c'est gagner du temps. Pour moi, c'est beaucoup plus profond que ça, parce que quand on regarde sur quel point la juge a débouté la direction, c'est quand même éloquent. Elle a quand même dit que on était dans un pays où il fallait quand même respecter un minimum les salariés. Elle a même parlé à un moment du fouet-nouk, en disant est-ce que vous voulez pas faire travailler vos salariés à coups de bâton?
Le fouet-nouk?
Le fouet-nouk, c'est en fin de compte le fouet que les Allemands utilisaient pendant la guerre pour taper un petit peu sur la gueule des prisonniers.
À cause d'un archaïsme syndical, une fois de plus, on a choisi de faire perdre leur emploi à des salariés français.
Alors voilà où nous en sommes aujourd'hui de cette histoire. On vient de le dire et le redire, le plan social a été jugé irrecevable par le tribunal de grande instance de Nanterre, mais évidemment, la direction de Dalop Goudière a fait appel et le jugement d'appel sera rendu le 18 février prochain. Pour l'instant, selon les salariés, la direction épuise leur résistance en imposant du chômage partiel. En février, 20%. En mars, 34%. En avril, ce sera à peu près la même chose. 33-34% de chômage partiel. Il faut dire au passage que le chômage partiel est indemnisé à hauteur de la moitié du salaire brut. Et à noter également, au passage, que le chômage partiel, qui augmente considérablement actuellement, n'est pas, les chômeurs partiels ne sont pas comptabilisés dans les statistiques du chômage. Côté Dalop, de ceux qui ont accepté les conditions patronales, les salariés qui ont accepté le système du 4-8 qu'on nous a expliqué, et la direction a fait part à ses salariés de sa déception devant la baisse de productivité, une baisse de productivité de 10%, c'était bien la peine, décevant cela. Et du coup, la direction cherche à louer le site de Dunlop.
Ce qui ne manque pas, à nouveau, d'inquiéter les salariés qui avaient pourtant cru devoir faire des concessions. Voilà, entre ceux qui ont fait des concessions et ceux qui n'en ont pas fait, et ben, voilà la différence. On attend donc le jugement d'appel en appel du 18 février. Et d'ici là, on écoute encore un peu notre ami Michael Vamin.
Ça fait quand même des années qu'on fait grève chez Goodyear. C'est la première fois qu'on est arrivé à 5h du matin. Il y avait 30 CRS. C'est la première fois qu'on voit qu'on nous fait passer pour des voyous parce qu'on se bat pour garder notre boulot. Je veux dire, c'est quand même bien cette politique, entre guillemets, d'enculé qui fait qu'à un moment donné, on nous fait passer pour les casseurs de la bande. Moi, si j'ai un message à faire passer effectivement à Bernard Thibault, c'est de lui dire la CGT doit revenir à ses origines. Être à compter de ceux qui luttent et faire en sorte de rassembler le maximum de monde dans la rue pour une cause commune. Et aujourd'hui, des causes communes, il y en a plein. Il y a le pouvoir d'achat, il y a les suppressions d'emplois, il y a la régression sociale, il y a les délocalisations. Il n'y a pas aujourd'hui un repas de famille, un samedi ou un dimanche, qui ne tourne pas autour. Je vais perdre mon boulot, j'en ai marre d'être intérimaire, on m'a foutu sur la gueule quand j'étais en grève, j'ai plus de pognon pour faire bouffer mes gosses. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut se retrouver dans une seule et même lutte, c'est de dire, on réunit l'ensemble des salariés du privé et du public sur des journées d'action forte. Là, on parle du 29. Est-ce qu'on doit s'arrêter au 29, sérieusement? Est-ce que le 29 au soir, on aura tout gagné? Moi, je pense que non. Je pense que derrière, effectivement, il faut qu'on pense tout de suite à une nouvelle date, mais d'action forte. Les manifestations à 14h, le samedi après-midi dans Amiens, main dans la main, en disant « Sarko, t'es pas beau, il y en a marre, on voudrait bouffer, enfin des trucs. » Ça, c'est fini, il va falloir qu'on stoppe.
Qu'est-ce qu'il faut dire?
Ben, je pense que c'est pas ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut faire. Il faut bloquer les poumons économiques. Et la zone industrielle est un poumon économique. Dès lors qu'on touche au capital, ça fait mal. Il y a des choses aujourd'hui à faire. Il faut aller bloquer les banques, il faut aller bloquer des choses. Manifester un samedi après-midi à 17h, c'est plutôt un parcours de santé. C'est quasiment pour aller faire ses courses en passant. Les magasins sont ouverts, ils se foutent de notre gueule. Les autres, ils sont à leur balcon, ils se foutent de notre gueule. Je suis désolé. À un moment donné, va peut-être falloir un petit peu hausser le ton, non seulement dans la façon d'agir, mais aussi dans la façon de faire. Je pense que les slogans doivent rester les mêmes. Je veux dire, je pense que ça fait des années qu'on a tous les mêmes slogans. On veut vivre mieux, on veut vivre décemment. On en a marre d'être traité comme de la merde. Mais ça veut dire aussi, à un moment donné, que si on n'arrive pas à faire en sorte qu'ils prennent réellement conscience du problème que l'on rencontre, on n'avancera pas. Et comment faire? Moi, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Il faut bloquer la France qui, aujourd'hui, se fout de notre gueule. Et c'est quoi la France qui se fout de notre gueule? C'est le capital. Y compris, quand on dit le 29, il faut bloquer la zone industrielle à 4h du matin, dans les rangs de la CGT, pour beaucoup, c'est pas encore acquis. C'est-à-dire qu'ils disent, ouais, mais tu te rends compte, on va empêcher les gens d'aller travailler. Mais à un moment donné, je suis désolé, quand ils auront plus de boulot, on n'empêchera plus personne d'aller travailler. Et au contraire, plus on va lutter, plus on va dire, il y en a marre, plus on va faire peur par rapport à ce que l'on représente aujourd'hui comme menace vis-à-vis du capitalisme en règle générale, mais surtout de la société Goodyear et de la zone industrielle plus directement. De dire, mais attendez, si vous voulez vous barrer, vous n'allez pas vous barrer comme ça, mes cocos. C'est pas avec 500 euros par une ancienneté que vous allez vous libérer des Goodyear. Il y a aujourd'hui un résultat qui est concret. On a flingué nos vies de famille. Et aujourd'hui, cette même direction dit, je vous licencie parce que vous êtes plus rentable. Ben, nous, on dit non, c'est fini. Voilà.
Il n'y a pas de fatalité. C'est ça qu'on pourrait dire. C'est que tant qu'on n'a pas mené de lutte, on ne sait pas si ça va aboutir ou pas.
La seule lutte qu'on a perdue, c'est celle qu'on n'a pas menée.
Voilà. Voilà.
Il y en a un qui n'a pas cessé de prendre des notes depuis 15h, c'est Nicolas Sarkozy. Il est comme Michael. Nicolas Sarkozy veut réformer le capitalisme. Et donc, il a pris plein d'idées depuis 15 heures. Il a pris plein de notes. Vous l'écouterez bien jeudi soir. Sans doute qu'il y aura des idées qui seront empruntées à la base où j'y suis. Je suis très, très confiant. Très, très, très confiant. Merci à tous. C'était un reportage de Renaud Lambert. Merci à JP du Monitor, à Hakim, à Mourad, à Evelyne, à Michael, à François, à Gilles, à Philippe Misquet et à tous les salariés de Goodyear Amiens. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures et faire tous les commentaires que vous souhaitez, que nous mettons en ligne avec plaisir. Et vous pouvez également écouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org, là aussi faire les commentaires que vous dont vous avez envie. À la technique aujourd'hui, Pierrick Monsigny et Chérif Bitel Maggi, c'est Koyen Guyen et Raphaël Moutea qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry, et c'est Agnès Lebot qui qui attend vos messages au répondeur de la base si j'y suis, c'est-à-dire au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.